pour parler de romans biographiques, et notamment de romans biographiques écrits pour les adolescents. Trois auteurs et autrices de grand talent, et une éditrice aussi de grand talent, voilà, qui vont parler de leurs romans biographiques, et notamment de ceux écrits dans la collection Destin chez Albin Michel, que vous connaissez peut-être. Voilà, j'en ai amené certains de nos auteurs-autrices qui sont là, et qui est une collection qu'a créée donc Karine Van Vormouth. Donc on a à notre table, on a donc Fabrice Collin, voilà.
Bonjour.
Qui est, bah voilà, que vous connaissez sûrement, qui a écrit plein de romans pour les ados, pour la jeunesse, d'albums, de scénarios de bande dessinée, de romans aussi de littérature générale, et qui a écrit pour la collection Destin trois romans biographiques, un sur les Obama, Michel et Barack. Ou Barack et Michel, c'est Michel et Barack, je crois.
Michel et Barack.
Un sur Marilyn Monroe, que j'ai pris, Shooting Star, et un, le premier, sur Simone Veil, qui était le premier que j'avais lu. Et alors, attends, le titre, rappelle-moi, sur Simone Veil.
Restez debout.
Voilà, restez. Et ensuite, à côté, nous avons donc Laurent Fassou, qui est... Nsafou, qui est donc autrice depuis... un peu moins longtemps peut-être, mais qui a commencé à avoir une belle série de livres.
Ouais, depuis 2018. Mais c'est 2018. Moins long que vous.
Ah oui, oui.
Bonjour.
Et donc Laura a écrit pour la collection Destin le titre qui est sorti très récemment sur Toni Morrison, Écrire avant l'aube. Voilà, et avant elle avait fait une série aussi de dystopie voilà, chez Albin Michel. Karine, donc, qui est l'éditrice de la collection Destin et de Albin Michel Jeunesse, on va dire. Et donc, à côté de moi, Jennifer Richard, qui a aussi écrit à la fois des romans pour les adolescents et des romans aussi en littérature générale, qui a écrit deux titres pour la collection Destin, un sur Booker T. Washington et un sur, qui vient de sortir, donc, dont on en parlera plus, sur Martin Luther King. Voilà. Donc... j'ai aussi écrit des romans biographiques dans cette collection. C'est pour ça que j'ai eu aussi envie de faire parler des confrères et des consoeurs sur ce sujet qui me passionne, que j'ai découvert, donc, dont j'ai découvert l'écriture en 2018-2019. Je pense que le roman biographique, notamment pour les ados, a fait ses preuves et fonctionne très bien auprès des ados. On a un public qui est toujours très intéressé. Je pense que l'ancrage dans la réalité, ce justement décloisonnement des genres qu'amène le roman biographique, c'est-à-dire de la fiction est au service du réel, est au service d'une personne qui a vraiment existé, c'est quelque chose qui les interpelle. Et donc c'est pour ça que aussi cette collection s'est développée. Donc voilà, j'ai envie d'interroger les auteurs et les autrices qui sont là sur leurs coulisses d'écriture. On va commencer vraiment par parler du laboratoire d'écriture. Après, ils vous parleront peut-être plus précisément aussi des personnages. C'est toujours le problème quand c'est sur des romans biographiques, parce qu'il faut choisir entre est-ce qu'ils racontent la vie des personnages sur lesquels ils ont écrit ou est-ce qu'ils parlent de la manière dont ils ont écrit. Et là, ce qui m'intéressait pour un public comme vous qui allez être amené à lire ces livres si vous ne les avez pas déjà lus, c'est plutôt de vous montrer un peu les particularités de cette écriture et aussi du rapport au public adolescent que ça induit. Alors, donc mes premières questions, c'est sur quand on écrit donc sur les... un roman biographique, est-ce que pour vous ça a une particularité d'écriture? Qu'est-ce qu'il faut dépasser pour réussir à rentrer dans cette écriture d'un roman biographique? Est-ce que c'est une évidence? Qu'est-ce qui est difficile? Et je vais commencer par donner la parole à Laura parce que c'est ton premier roman biographique, donc j'aimerais savoir qu'est-ce que ça t'a apporté de différent par rapport à ce que tu as écrit avant.
Je pense que c'est notamment le rapport en fait à la personne qui devient personnage, c'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui a existé. Dans mon cas, avec Toni Morrison, quelqu'un de connu qui a marqué aussi l'histoire des États-Unis déjà en tant qu'autrice, et cette impression aussi de rentrer dans l'intimité de ces personnes. C'est toutes ces raisons-là au début qui m'ont un peu intimidée quand j'ai commencé à écrire sur sa vie. sachant que c'est une autrice qui me passionne depuis mes 15 ans. Donc je me suis dit, bon, si j'écris sur elle, c'est en tant que lectrice qui l'admire ou c'est en tant qu'auteur qui en fait son sujet. C'est vraiment deux postures complètement différentes. Et du coup, même trouver la voie avec laquelle écrire cette biographie, est-ce que j'utilise le jeu, je parle à sa place, est-ce que j'utilise un narrateur omniscient, tous ces sujets-là, pour moi, se posaient encore plus dans la manière de l'approcher. Et en fait, de créer cette proximité aussi le lecteur. Je pense aussi que le fait qu'elle soit un monument de littérature fait qu'on connaît très peu sa personne. Donc, Toni Morrison, première femme noire à avoir obtenu le prix Nobel de littérature en 1993, est connue pour ses romans, pour la manière dont elle a permis à la littérature américaine de faire entrer plusieurs récits autour des communautés noires. Mais on ne la connaît pas en tant que professeure de lettres, on ne la connaît pas en tant qu'éditrice, on ne la connaît pas en tant que mère célibataire dans les années 70, en pleine ségrégation raciale, guerre de Corée, guerre du Vietnam, etc. Donc c'était vraiment choisir en fait quel angle pour découvrir sa personne et finalement créer une proximité avec quelqu'un qui nous paraît presque très éloigné. Quoi. Et ça, c'était pour moi le principal défi.
Donc on va parler de l'angle après, mais du coup, Fabrice, je me disais, moi, ce qu'il a par rapport au Obama, notamment, tu as écrit sur un couple de plus que des stars, mais qui sont encore vivants. Est-ce que ça a ajouté quelque chose par rapport à la difficulté d'écrire, le fait qu'ils soient encore vivants, le fait qu'en plus c'est une responsabilité politique, enfin il y a quelque chose, un enjeu politique derrière qui est peut-être encore plus significatif, même s'il y a peut-être dans tout roman bio un enjeu politique, mais voilà, est-ce que comment t'as réussi à te lancer dans l'écriture de...
C'est sûr que quand c'est des personnages qui sont encore vivants, c'est encore plus intimidant, même si a priori on se dit qu'ils n'iront pas le livre et ils ne viendront pas nous embêter. Mais cela dit, quand j'ai écrit le livre sur Simone Veil, j'étais en contact avec un de ses fils et une de ses petites filles. Et c'était, enfin, on a frôlé l'incident diplomatique à un moment, peut-être que j'en parlerai tout à l'heure. Mais de toute façon, quand on a un personnage, en l'occurrence deux personnages publics comme les Obama, il faut bien voir que précisément, personnage public, c'est une espèce d'avatar que les gens mettent sur scène et qui commence à se, de leur vivant, à se fossiliser, à se figer. C'est-à-dire qu'on a de l'image d'une personne. Je vous fais pas un dessin sur l'image qu'on peut avoir de nos présidents successifs en France aujourd'hui. C'est assez frappant. C'est-à-dire que, par exemple, Sarkozy, c'était l'excité. François Hollande, c'était Flamby. Macron, c'est Jupiter. Et je veux dire, ils sont ça, mais bien sûr, mais ils sont plein d'autres choses derrière. Et pour les Obama, c'est vrai que y a cette image de glamourisation un petit peu qui est attachée à ce couple. Et même avant ça, il y a Michelle, une femme extraordinairement brillante et une forte femme, on va dire. Et puis Barack, pour les Européens, il a ce côté un peu cool, sexy, etc. Surtout quand on regarde ses prédécesseurs et ses successeurs, forcément, ça, il y a un contraste. Après, il faut savoir que cette collection, elle s'attache surtout à la jeunesse des personnages, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qui sont-ils avant de devenir les personnes qu'on connaît aujourd'hui, et ça, c'est super intéressant, parce que il y a en germe la question de comment on devient ce qu'on est peut-être appelé à devenir, quels sont les chemins de vie qu'on prend, par quel truchement, justement, c'est cette espèce de persona qui est projetée sur la scène, se forme et se construit. Donc on est dans les ferments de ça, presque dans le roman d'apprentissage. Et effectivement, comme ça a été dit, c'est la fiction qui est au service du réel, puisqu'on doit réinvestir une réalité. Alors on a des choses qui sont intangibles, des dates, des événements, des prises de parole, etc. Mais après, il y a tout un endroit qu'on doit investir avec malgré tout notre imagination, et il faut qu'on décide un peu quelle Barack Obama j'ai en tête, quel Michelle Obama j'ai en tête, qui sont ces gens pour moi. Et il faut déjà qu'on commence à trouver ça, qu'on les apprivoise, un peu comme quelqu'un qui traduit un texte, qui doit trouver d'abord la voix du texte. Ben, là, on a des personnages et il faut qu'on décide un petit peu qui c'est pour nous. Il y a un côté un peu arbitraire et ensuite qu'on investisse ce champ-là, quoi.
Effectivement, et du coup, ça amène directement sur l'idée de l'angle, parce que tu dis qu'il faut trouver l'angle et la manière dont, parce qu'il y a effectivement dépassé ce sentiment un peu d'imposture qu'on peut avoir quand même, je pense encore plus quand ils sont vivants, mais de toute façon, il y a un sentiment d'imposture à dépasser pour nous tous. Et après, donc, il y a cette idée de comment, donc, dont Laura et Fabrice parlaient, comment on va trouver l'angle qui va nous permettre finalement de nous sentir juste vis-à-vis peut-être de ces personnages-là, de se sentir à la fois honnête et à la fois écrivain-écrivaine. Donc c'est dans cette dualité-là. Et donc dans ton roman sur Martin Luther King, tu as fait un choix d'angle très fort. Je vais lire un petit extrait. Puisque tu as décidé de faire parler Malcolm X à Martin Luther King, ce qui est pour le coup un angle, vous voyez, où l'écrivaine est très présente, mais à travers un autre militant noir américain. Donc je lis un petit extrait pour vous montrer l'impact de ce tutoiement qu'elle utilise, et après tu pourras nous expliquer ton choix. Donc c'est donc Malcolm X qui parle à Martin Luther King. Tu fixes la table basse, perdue dans une intense réflexion. Quand tu relèves ton visage vers ta grand-mère, on dirait que tu viens d'apprendre une grande nouvelle. Des mots, ce sont les mots qui changent le monde, c'est ça ? Elle ouvre les mains, t'accordant l'entière propriété de ta découverte. Les mots que l'on partage, confirme-t-elle, comme des biscuits. Et elle te tend la boîte à biscuits, remplie des sablés aux noix de pécan qu'elle réussit à merveille. Tu l'aimes à la folie, ta grand-mère, ta mama. Et il est possible que tu sois son préféré parmi les petits-enfants. C'est avec toi qu'elle passe le plus de temps, en tout cas. Tu te rappelleras toute ta vie les mots de ta grand-mère et toute ta vie, tu éprouveras son absence. Donc on est au cœur de l'intime de Martin Luther King enfant, mais via Malcolm X qui ne le connaissait pas. Donc comment t'es venue cette idée de cet angle ?
Moi, j'ai un problème avec les biographies et enfin, du coup, avec tous mes romans, parce que j'écris beaucoup de romans historiques et très authentiques concernant les faits et les personnages. Et comme je suis très psychorigide, j'ai beaucoup de mal à passer le cap et à transformer ça en littérature. Donc, généralement, dans un premier temps, j'écris quelque chose qui est illisible pour un lecteur, qui est truffé de faits historiques, et parfois je trouve des choses en me disant oh, « mais ça n'a pas été traduit, ou ça, mais on ne le sait pas, ça, on ne l'a pas assez vu », et je suis heureuse de recopier quasiment le discours sur 10 pages en me disant « mais c'est génial, c'est authentique », et puis après je me relis, ou alors l'éditrice me relit, et me dit « mais c'est pas du roman, ça, c'est un essai historique », donc je repasse derrière. Et là, pour Martin Luther King, il y a eu ce problème personnel, et le problème qu'on a tous, à savoir comment, enfin, par exemple pour Marilyn Monroe, Toni Morrison peut-être encore un peu moins pour l'instant en France, mais des figures comme les Obama, qui sont très connues et sur lesquelles il y a eu beaucoup de choses écrites, comment nous on va trouver notre voix et qu'est-ce qu'on va apporter de nouveau sur une personne aussi connue et aussi documentée et aussi surveillée. En effet, je me suis dit, il faut que je trouve un angle qui soit à la fois une justification de ma voix, et qui puisse transformer tous mes faits historiques et toute ma documentation en roman. Et comme j'ai travaillé déjà sur ces deux personnalités, Martin Luther King, Malcolm X, je me suis dit, enfin, je savais depuis longtemps que ce sont deux personnalités qui se répondent, mais vraiment en miroir, à contrario, sur à peu près tous les pans de leur vie. Ils ont en commun d'avoir été assassinés à 39 ans pour leur combat politique. Donc, à partir de là, tout le reste est à contrario, leur naissance, leur milieu social, leur lieu géographique. Et pour moi, adopter la voix de Malcolm X était la meilleure façon de faire ressortir toutes les spécificités du combat de Martin Luther King. Et puis ce tu, je pense, implique le lecteur dans cette histoire, puisque c'est pas notre, a priori, c'est pas notre pays, c'est pas exactement notre époque. Donc c'est une façon d'englober le lecteur et de vraiment l'impliquer dans des choses qui sont quand même en fait plus proches de nous qu'il n'y paraît.
Ok, donc tu as fait le challenge de t'imaginer la manière de penser de Malcolm X et sa manière de voir Martin Luther King en fait.
Oui, mais alors comme en effet j'ai déjà travaillé sur eux, j'ai lu tous leurs discours, j'ai vu tous les documentaires sur eux, donc j'essaie vraiment d'adopter un petit peu leurs idées et leur façon de parler, ce que je fais à peu près à chaque fois que je travaille sur quelqu'un qui a existé.
Ok, d'accord. Et donc après, donc pour les angles, Laura, qui a donc une manière d'écrire très très différente, qui est dans la narration plus classique d'une certaine manière, qui suit plus une chronologie, mais alors qui est allée beaucoup plus dans une écriture de détails, d'intime et de comme si tu avais envie de voir tous les gestes, vraiment dans leur moindre évolution. C'est-à-dire, on voit vraiment les petits moments de la vie quotidienne, le petit moment du thé, le moment aussi juste de se toucher les cheveux. Voilà. Donc, je vous lis un extrait de son Toni Morrison, et puis tu nous expliqueras pourquoi toi tu as eu besoin de te plonger, pour le coup, à ce point-là, dans ce quotidien très précis, on va dire, de Toni Morrison. Alors. Elle chercha dans sa mémoire un grain de souvenir, une voix peut-être, celle d'une enfant. Comment s'appelait-elle ? Élise ? Eunice ? Ce n'était pas ça, l'important, mais leur conversation. Elle dépoussiéra son visage oublié, effleura sa peau aussi lisse et foncée que du vinyle, retrouva ses yeux en amande et ses deux nattes basses ornées de rubans à leurs embouts. Que disait-elle déjà ? Alors non, Dieu n'existe pas. Non, il fallait remonter le temps, à quelques secondes près. Toni sentit éclore dans sa poitrine l'effroi qu'elle avait éprouvé ce jour-là. Un choc, suscité par une petite phrase. « Chloé, ça fait 2 ans que je demande à Dieu de me donner des yeux bleus. Je le fais tous les soirs avant de me coucher et rien n'a changé. Alors non, Dieu n'existe pas. » « Encore un peu de café ?»« Non, » répondit Toni d'une voix abrupte. « Merci. » Son crayon courait sur une énième page, tordant les lettres en un italique impulsif, tandis que Toni rattrapait cette petite fille noire. Donc on est à la fois dans un quotidien, elle prend son café, et à la fois dans ses souvenirs, bon, d'un moment crucial, puisque c'est aussi à l'origine d'une de ses œuvres les plus sublimes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, du coup ?
Alors oui, en fait, c'est vrai que quand j'ai travaillé sur Toni Morrison, parce que je me suis rendu compte quand même qu'elle avait été pas mal réécrite d'une certaine manière, même aux États-Unis. En général, on dit toujours Toni Morrison est l'héritière de William Faulkner, de Virginia Woolf. Or, Toni Morrison a passé sa vie à expliquer que son écriture, que ce soit la langue, que ce soit les histoires, venait de son quotidien. Et donc venait des histoires que sa famille lui racontait quand elle était petite, avec cette tradition des contes venant des esclaves, que ce soit la place du jazz, etc. Donc des choses du quotidien l'ont inspirée, et dans le cas de L'œil le plus bleu, c'était cette petite fille noire à 12 ans, sa copine de classe, qui lui dit ben, « je veux des yeux bleus », quoi, et qui a donné L'œil le plus bleu des années plus tard. De manière assez paradoxale, il existe très peu d'archives sur son enfance. Parce qu'en 1993, il y a eu un incendie dans sa maison. Et donc, toutes les photos d'elle, étudiante, ou même enfant, enfin voilà, tout ce qui était relatif à son enfant, bah c'était l'énorme trou qu'il y avait dans les archives quand j'ai commencé à faire ces recherches, et même dans les archives qu'elle a données à Princeton et que j'ai pu consulter plus tard. Voilà, c'était une espèce de table rase. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette partie-là ? Or, surtout dans une collection où on est censé présenter justement de l'enfance jusqu'à l'adolescence et ce qu'ils sont devenus, comment on travaille tout ça ? Et donc, je me suis beaucoup appuyée sur les anecdotes que Toni Morrison racontait, et surtout la manière dont ça revenait dans toutes les interviews. Parce qu'il y a toujours... une personne va vous raconter un souvenir, mais va un peu le romancer, ajouter des choses, et j'essayais vraiment de trouver les anecdotes qui revenaient à l'identique. Donc, il y avait le fait de... Cette rencontre avec cette petite fille, mais il y avait aussi l'incendie qui a eu lieu dans sa maison quand elle avait 2 ans, parce que justement le propriétaire voulait chasser une famille noire, donc sa famille, des lieux. Donc travailler avec à la fois le souvenir et créer cette proximité où c'est une personne, elle prend le café comme nous, elle va se disputer avec sa sœur comme nous. Et donc désacraliser le rapport à cette Chloé qui devient Toni. Et je crois que c'est ça qui m'a le plus passionnée aussi, c'est nous on sait ce qu'elle est devenue, mais quand on la suit en train de faire de suivre ses cours à l'université ou d'écrire même en dilettante, voilà, c'était pas quelqu'un qui se disait un jour je serai écrivaine, elle écrivait quand elle en avait envie, quand elle avait le temps, donc on voit ce qu'elle est devenue et on la voit, et nous on sait, voilà, nous on sait ce qu'elle va devenir. Donc j'avais vraiment envie de créer cette réalité-là, et montrer aussi un quotidien finalement, c'est quoi d'être une jeune étudiante noire dans un contexte de ségrégation raciale à l'université Howard, donc qui était la première université noire des États-Unis. Moi, naïvement, en tant que Française, je me suis dit « Oh, génial, elle devait trop bien, trop s'amuser dans cette université avec plein d'intellectuels noirs ». Pas du tout. Pas du tout, parce que même dans une université noire, ben, le programme avait des biais racistes, hein, puisque gouverné par les... programme scolaire qui répondait aux critères du gouvernement ségrégationniste de l'époque. Il y avait des discriminations selon qu'on soit clair ou non, qu'elle a vécu. Donc toutes ces petites choses, son quotidien nous raconte aussi une période de l'histoire. Et je trouve que c'est toujours plus immersif de montrer à travers les yeux du personnage et de petites choses comment ça a affecté et peut-être donné lieu à Soula qui parle de ça, du colorisme, ou à Jazz qui parle de la présence du jazz, comme le jazz qu'il y avait dans sa maison quand elle avait 6 ans ou 7 ans.
Donc tu t'es autorisée donc à inventer des petites anecdotes, par exemple ?
Je me suis principalement appuyée sur toutes les anecdotes qu'elle a données, et aussi sur ce qui était corroboré par d'autres personnes, donc sa rencontre avec James Baldwin, etc.
Et donc, troisième extrait pour vous plonger, j'aime bien commencer vraiment par l'idée de partir de l'écriture. Et donc, j'ai choisi de parler du roman sur Marilyn Monroe de Fabrice, parce que justement, dans ce choix narratif... toi, tu as deux temporalités dans le Marilyn Monroe, donc on sent aussi que tu as cherché ta manière d'être juste face à cette femme et que tu as vraiment adopté ton angle à elle et à son rapport au réel, justement, et son rapport à ce qu'on sait de ses mensonges aussi. Donc je trouve ça hyper intéressant aussi d'avoir de t'être dit comment je fais, je raconte son enfance. En même temps, moi, auteur, je m'autorise à la montrer, elle, dans ses différentes versions. Donc, je vous lis un extrait, parce qu'il y a donc les passages sur Marilyn enfant et puis les passages sur Marilyn plus adulte, qui sont écrits de manière très différente. Et c'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'il y a un style beaucoup plus narratif et romanesque dans son enfance. Et je vous lis donc un extrait où c'est Marilyn adulte. L'orphelinat, devant les images de la bâtisse, Marilyn a frissonné. Est-ce parce que les souvenirs brûlent son âme ou est-ce parce qu'elle a honte d'avoir raconté tant de mensonges à ce sujet? 100 assiettes, 100 tasses, 100 couteaux à laver. 3 fois par jour et 7 jours par semaine, elle devait nettoyer les toilettes, récurer les baignoires. Elle recevait 10 cents par mois pour travailler à la cuisine. Non, attendez, 20 cents. Plus 10 par mois pour son labeur à l'office. Mais chaque dimanche, on en prenait un pour la quête. À un autre intervieweur, elle expliquait n'avoir jamais vu l'argent. Il était mis dans une caisse pour Noël. Obligation était faite d'acheter des cadeaux pour les autres petites filles. Finalement, c'était 5 cents par mois qu'elle percevait. 4 partaient pour la collecte, il lui en restait un. Elle s'achetait un ruban pour ses cheveux. L'un de ses premiers biographes, Maurice Zolotoff, est allé rendre visite dans les années 50 à la directrice de l'orphelinat, une certaine Madame Instaham, qui a réfuté avec tristesse l'ensemble de ses allégations. Vraiment, je ne sais pas pourquoi Mademoiselle Monroe raconte toutes ces terribles histoires à notre sujet. Donc là, tu cites même un biographe, alors qu'on est dans un cadre de roman, ce qui est, je trouve, une démarche très rare, parce qu'en fait, dans le roman, on n'ose pas forcément faire ça. Donc tu peux nous raconter un peu les coulisses de cette écriture ?
Oui, alors c'est très particulier, Marilyn. Alors comme les autres personnages auxquels je me suis attaqué, les Obama et Simone Veil, c'est les gens qui ont écrit sur eux. Donc ça, c'est une première source. Et puis il y a après leur biographe. Et comment travaillent les biographes ? C'est très variable. Alors, ce qui est très compliqué avec Marilyn Monroe, c'est que il y a une enfance particulièrement tourmentée. Il y a des biographes qui racontent des choses. Comment ils travaillent ? Est-ce qu'ils travaillent ? Quelles sont leurs sources ? Sur l'enfance, il y en a très peu. Donc c'est des récits, très souvent, de gens. Est-ce que ces récits sont dignes de foi, de confiance ? Ça, c'est à eux de juger. Donc il y a un travail de journaliste, mais presque sans source ou sans preuve. Moi qui travaille aussi un petit peu dans un journal, je sais combien il est difficile... De se dire à un moment voici des faits, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous a raconté quelque chose, ça fait pas un fait, ça. C'est effectivement, c'est des allégations. Ça peut être des racontages, ça peut être vrai, hein, mais ça peut être faux. La personne qui parle d'elle-même, dans le cas de Marine, elle l'a fait relativement tardivement, et la plupart des biographes et des spécialistes, des journalistes s'accordent à dire qu'elle raconte un petit peu n'importe quoi sur certains sujets, pour des raisons qui la regardent, hein, qui sont d'ailleurs plus ou moins compréhensibles. Alors, les biographes se contredisent entre eux. Elle raconte encore une autre version. Donc, où est la réalité ? Moi, j'essaye dans le livre d'en présenter une version un petit peu diffractée, où il y a des fois, effectivement, je rentre dans l'intimité de cet enfant. Mais on sait que les enfants aiment bien raconter aussi des histoires. C'est aussi notre boulot à nous, écrivains, de raconter des histoires. Quand on raconte quelque chose, même sur soi-même, avec la meilleure volonté du monde, de toute façon, on va opérer des choix qui sont complètement arbitraires. Alors, il y a des gens qui vont être plutôt dans la complainte, qui vont forcer le trait sur des épisodes particulièrement tristes. Il y a des gens qui vont se mettre en valeur. Mais enfin, évidemment, on fait de toute façon des choix. Mais de la même façon qu'on fait des choix quand on écrit des romans, puisque, comme le disait Houellebecq, dans la vie, tout peut arriver sur tout rien. Alors nous, il faut qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc, quand on raconte avec des personnages qu'on invente, c'est des personnages à qui il arrive beaucoup plus de choses que quelqu'un de moyen, de normal. Là, Marilyn Monroe, c'est pas quelqu'un de moyen ou de normal, il lui arrive plus de choses que la moyenne, et dès son enfance, parce que, encore une fois, elle est ballottée de famille en famille, et effectivement, elle passe un moment à l'orphelinat. Mais pour rendre compte de cette réalité qui est en fait la somme de plein de points de vue, j'ai adopté cette espèce de système de caméra qui va bouger dans pas mal d'endroits, ou de micro qui va être tendu à plein de personnes, parce qu'évidemment, il existe une réalité objective, hein, et il en existe une sur nos vies aussi, mais personne la connaît. Et peut-être que l'existence de Dieu ou d'une morale supérieure répond aussi à ce besoin de se dire quelqu'un quelque part connaît tout. Mais en tout cas, c'est pas nous les auteurs, c'est pas les amis ou les collègues ou les personnes qui ont travaillé avec Marilyn Monroe, et c'est même pas Marilyn Monroe elle-même. Donc on est, enfin, en tout cas, moi, je me suis senti obligé d'offrir cette espèce de panorama multifocal, hein, sur le personnage, quoi.
Oui, c'est ça, ça. On sent derrière ton besoin d'honnêteté, justement, de dire je ne suis pas tout puissant. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et étonnamment, on ne perd pas le romanesque, et c'est ça qui est assez fort, je trouve, dans ce roman, qui est vraiment original, du coup, dans sa forme. Et donc, du coup, j'en profite pour parler à Karine. J'avais deux questions. Une première, donc, qui rejoindra une question pour les auteurs, qui serait de savoir pourquoi, comment, quel personnage, est-ce qu'on peut écrire sur tout le monde ou pas ? Parce que je pense que c'est important quand même en roman biographique. Et toi, en tant qu'éditrice, est-ce que tu as des idées de binômes qui te viennent ? Est-ce que tu as des propositions que tu refuses ? Comment tu fais ton choix pour orienter, donner une couleur en quelque sorte à ta collection là, qui se dessine maintenant de plus en plus ?
Oui, alors moi je suis éditrice de romans pour ados, donc je m'adresse à des adolescents et j'ai envie que les personnalités qu'on leur présente soient inspirantes pour eux et elles. Et notamment, c'est souvent dans la jeunesse de ces personnages, et c'est pour ça qu'on se focalise sur la jeunesse des personnages dans cette collection, que s'ancrent les combats, les colères, les passions de ces personnalités extraordinaires, mais elles n'étaient pas forcément toutes destinées à être extraordinaires, en fait. Il y a des mains qui se tendent pour ces personnages dans la vie, elles font des rencontres, elles font quelque chose de leur colère, et c'est toujours différent, tu vois. Jennifer a travaillé sur Booker T. Washington, qui n'a pas combattu la ségrégation raciale de la même façon que Martin Luther King, que Katherine Johnson, sur laquelle tu as travaillé, Toni Morrison, etc. Donc moi, je m'adresse à des ados, je veux que ce soit inspirant pour eux et elles, et qui eux-mêmes, voilà, s'ils sont en colère, s'ils ont des combats, s'ils ont des projets, s'ils ont des passions, je veux leur montrer que tout est possible, à condition d'écouter, de peut-être savoir prendre une main qui se tend. Enfin, voilà. Et pour choisir les personnages, j'ai besoin que ce soit des personnages sur lesquels il n'y ait pas trop de livres, pour les adolescents en tout cas, et qu'il y ait un angle original. Donc j'ai envie qu'il y ait un fil rouge, qu'on raconte une histoire. Ça doit être aussi du roman, du romanesque, parce que c'est comme ça que je m'adresse aux ados, en tout cas, c'est ce que j'aime lire aussi. Et il faut qu'ils en aient entendu parler, que ce soit parfois qu'ils en entendent parler à l'école aussi, ou en tout cas que ça les intéresse. Donc je fais des ping-pong avec les auteurs que j'approche, et on met du temps à choisir ces personnalités. En fait, on commence parfois des livres d'ailleurs qui s'arrêtent. On avait commencé un destin sur Isabelle Huppert, une aventurière. L'autrice m'a très rapidement dit « Je ne peux pas écrire sur elle, en fait, elle est extrêmement raciste. » Donc on arrête. Donc en fait, le rapport qu'elle avait en fait, aux personnes qui l'accompagnaient pendant ses voyages était horrible. Donc on a arrêté. Parfois aussi, on a commencé un livre sur une aviatrice. Et en fait, on s'est aperçu rapidement que cette femme était née avec vraiment tellement d'argent et tellement de facilité qu'il n'y avait pas de combat. En fait, c'était trop facile. Voilà, elle voulait piloter, son père lui a acheté un avion. Bon, il y a un moment, ce n'est pas très intéressant de raconter ça. Donc moi, je cherche des personnages qui se sont battus, en fait, et qui sont tous extraordinaires pour ça, mais qui ne croyaient pas forcément non plus en leur force au départ. C'est le premier roman, enfin la première biographie romancée de la collection Destin. C'est un texte sur Marie Curie. Alors Marie Curie, ben, y a eu plein de choses écrites sur elle. Mais Natacha Henry venait de faire une biographie, pas du tout romancée pour le coup, chez Vuibert, que j'avais lue, qu'on m'avait mis entre les mains. Quoi. Et ça racontait en fait, elle avait découvert les archives des lettres entre Marie et sa sœur Bronia, sa grande sœur Bronia. Et on découvrait dans ces archives, Natacha Henry avait découvert, qu'elles avaient passé un pacte toutes les deux. Donc elles étaient polonaises, envahies par les Russes, elles n'avaient pas le droit d'étudier en Pologne. Bronia est partie en France étudier la médecine et est devenue une des premières gynécologues en France. Pendant que Marie est restée en Pologne, enseignée pour lui envoyer de l'argent tous les mois. Et quand Bronia a terminé ses études, s'est installée comme gynécologue, elle a dit à Marie, qui allait devenir Marie Curie, ben, à toi, viens étudier la physique, c'est ton rêve. Et là, Marie avait eu un chagrin d'amour entre-temps, un premier Pierre, qui lui avait brisé le cœur. Elle a dit, mais non, je suis bonne à rien, ça sert à rien, je vais rester enseignée toute ma vie ici. Et sa grande sœur lui a dit, ben non, c'est pas le pacte qu'on a passé, donc tu viens, t'étudies, je te paye tes études. Et puis voilà, avec le... Et ça, je trouve que ça parle à tout le monde, ça parle aux lycéens, ça nous parle à nous aussi. Donc c'est ce premier roman qui est devenu, enfin c'est cette première biographie qui est devenue une biographie romancée dans Destin. Et ça m'a donné envie de trouver des personnages comme ça, avec des fils très forts. Et elles ont toutes et tous ce genre d'histoire, en fait. Donc voilà, c'est comme ça que je choisis. Mais il y a vraiment des ping-pong et des échecs. Et quand tu as fait Catherine Johnson, on a beaucoup échangé, on a beaucoup parlé de personnages avant de trouver le bon. Là, tu as fait cette mathématicienne, parce que tout d'un coup, tu m'as dit, ma mère est mathématicienne, je me lance le défi, et tu as trouvé un lien avec son père.
L'envie de rendre hommage aussi à ma mère et puis d'avoir à travers une femme scientifique. Très bien. Et alors du coup, ma question d'après, c'est pour tous les trois, c'est est-ce que vous pensez que vous pourriez écrire sur n'importe qui ? Est-ce que vous pensez que vous pourriez écrire un roman biographique sur quelqu'un que vous détestez, que vous méprisez ? Est-ce que sur un monstre, après tout, hein ? Est-ce que vous pensez que vous pourriez écrire sur quelqu'un qui, a priori, ne vous intéresse pas ? Parce que justement, il ne fait pas partie ni de vos modèles, ni des gens. Mais bah pourquoi pas finalement creuser, découvrir qui il est à travers l'écriture. Parce que l'écriture, c'est aussi un lieu de rencontre, c'est aussi finalement un lieu de curiosité. Donc ça peut être aussi un challenge, un défi finalement de se dire, tiens, cette personne vraiment ne m'intéresse pas, mais tiens, si j'essayais. Donc, ou est-ce que vraiment vous avez besoin d'avoir cette accroche et soit une admiration, soit quelque chose qui fait que vous y allez ? Donc c'est la même question pour tous les trois, vous aurez peut-être des réponses différentes.
Ah bah, vas-y. Alors juste, je précise, pour rebondir sur ce que disait Karine qui est mon éditrice préférée, néanmoins, je précise que parfois, pour avoir une biographie, se mettre d'accord sur un personnage, il faut parfois fournir 10, 12, 15 noms avant de se mettre d'accord sur la personnalité qui répond vraiment aux critères que tu as définis pour la collection. Et donc, pour rebondir sur... ta question, Carole. Moi, j'ai déjà écrit sur des personnes que je n'aime pas. J'ai écrit une biographie d'un marchand d'armes, mania de la presse, de la banque, des assurances, qui s'appelait Basile Zaharoff, et qui m'a fait énormément de bien à écrire, parce que c'était une façon d'écrire sur les problèmes de la société, voire de la civilisation tout entière, puisque c'est une personnalité qui malheureusement est immortelle, qui se répète à toute génération. Et ça permet d'aller creuser une personnalité, d'aller essayer de voir quelles sont les failles de ces mégalomanes qui dirigent le monde. Donc ça peut être vraiment jouissif aussi d'écrire sur des figures qu'on n'aime pas, mais qui sont fascinantes malgré tout, parce qu'ils dirigent un peu nos vies. Et c'est évidemment un bonheur d'écrire sur des personnes qu'on admire. La difficulté, ce serait peut-être d'écrire sur des personnalités qui mènent des vies comme la plupart des gens, où il se passe pas grand-chose, en tout cas pas grand-chose de manière romanesque et dramatique. Comme dit Houellebecq, comme tu disais, Fabrice, c'est vrai que la plupart du temps, il se passe rien, où il se passe des choses qui sont écartées de 15 ans, 20 ans, et c'est difficile de trouver la narration correcte pour donner une dramaturgie. Mais ouais, c'est vraiment très agréable d'écrire sur des affreux vilains, les grands vilains de l'histoire, je trouve.
Excellente question. Moi, je pense que la littérature n'est pas nécessairement une amie au sens... Enfin, si, justement, ça peut être une amie, mais ce n'est pas quelqu'un qui vous fait... que des câlins ou des bisous, c'est quelqu'un aussi qui peut vous bousculer, vous secouer. Et moi, en tant qu'auteur, je suis très friand d'aller dans ces zones-là, pour des questions plus ou moins, pour des raisons plus ou moins personnelles. Mais disons que la question du mal, moi, m'obsède depuis longtemps, elle n'est pas tant abordé que ça au plan philosophique, finalement, parce qu'il y a quelque chose qui résiste à la compréhension. Moi, il y a deux figures qui me fascinent absolument, mais je crois même pas en avoir parlé à Karine, ou peut-être une, mais de toute façon, ça sera un énorme nom, donc ça, je le sais déjà, mais c'est Hitler et Poutine. Alors, Poutine, c'est plus récent, mais... Je veux dire, Hitler, il a une enfance qui est quand même assez fascinante. Enfin, c'est un petit garçon de la campagne. Il vit avec sa mère, qui va mourir d'un cancer du sein après avoir été mal soigné par un médecin juif. Enfin, ça fait partie des multiples anecdotes. Et puis après, il y a toute sa vie, notamment de jeune adulte à Vienne, où il rate le concours des Beaux-Arts, où il vend des carte postale qu'il a lui-même dessinée avec un comparse juif à l'époque, dans un contexte très très antisémite. Et comment Adolf devient Hitler, moi je trouve ça absolument fascinant. Et puis sur Poutine, j'ai récemment entendu un assez long podcast sur toute sa vie et son enfance. C'est pareil, c'est quelque chose d'assez fascinant, c'est personne. Et d'ailleurs, dans le match du Kremlin, qui est une espèce de biographie déguisée, c'est souvent dit, Poutine, il a ceci d'extraordinaire, que c'est presque personne, quoi, finalement. C'est-à-dire que c'est un type d'une banalité confondante. Quand il est, quand il est jeune, il essaye de jouer les petits loups-bars, donc il se bat pas mal, mais c'est pas du tout le mec le plus costaud. Et puis quand il essaye de rentrer ensuite au KGB, il est un peu nul, quoi. Enfin, c'est vraiment pas... c'est pas le gars qui va écraser tout le monde de sa superbe, tant s'en faut. Et comment, à partir de rien, comment ce rien va se cristalliser, et au contact de quoi, et comment il y a un destin, puisque c'est un peu le nom de la collection, comment ça va se construire. Moi, je trouve que c'est une question absolument fascinante. Après, est-ce qu'elle va intéresser les jeunes lecteurs ? Bon, moi, je suis dans mon monde, j'ai tendance à penser que oui, mais c'est vrai qu'après, il y a une réalité aussi éditoriale. Je ne sais pas trop ce que ça donnerait, une bio de Poutine ou d'Hitler aujourd'hui en librairie pour les adolescents. Je ne suis pas sûr de mon coup, quoi.
Certainement pas dans Destin, après.
Voilà.
Après, je ne sais pas. Pour l'instant, on fait des personnalités inspirantes. Voilà. Mais hors collection peut-être. Bien tenté, ouais.
Bien tenté, Fabrice.
Encore raté.
Il y a des déclarations de mariage en public, mais il y a aussi ça, des demandes.
Et je dois passer après ça.
Voilà.
Mais je trouve que alors moi, je pense que mon regard est extrêmement biaisé parce que j'ai découvert aussi le genre en l'écrivant. Et je l'ai fait sur quelqu'un que je suivais depuis des années, donc je pense même pas que j'aurais réussi à faire la biographie que je voulais sur Toni Morrison si déjà depuis 10 ans je ne la connaissais pas et j'avais pas déjà digéré tout sur elle, juste par passion. Et donc je pense qu'il y aurait déjà une part de moi qui aurait envie de faire la même chose pour un autre personnage, mais j'ai pas 10 ans devant moi pour écrire, pour rendre ma copie à Karine. Donc donc il y a déjà ce point-là. Et puis aussi, en travaillant sur Toni Morrison, et je pense que c'est la même chose pour nous tous, on voit d'autres personnalités. Et j'ai vraiment senti ce truc de ne rencontrez pas vos héros. Donc, Toni Morrison croise Mohamed Ali, tu vois à quel point il avait un comportement ultra sexiste, tu recroises d'autres écrivaines ou d'autres activistes, etc. Et c'est normal, ils sont imparfaits, ce sont des humains. Mais, et après, il y a l'autre versant, un peu comme Fabrice, de cet activiste, et je ne vous dirai pas lequel, lisez le livre, qui a une trajectoire incroyable, que Toni Morrison édite, et quand j'ai commencé à... Voilà, j'ai commencé à avoir une espèce de micro-obsession sur lui, au lieu de rendre ma copie. Et en fait, il y a tellement d'histoires macabres, en fait, dont il a été l'auteur. Et à ce moment-là, j'avais presque envie d'expliquer pourquoi et d'être dans une sorte de justification pour le sauver. Un peu ce que tu décris en fait. C'est pas pour les justifier, mais juste comprendre le pourquoi. Et du coup, ça m'a presque amené à douter un peu de moi-même. Je me dis mais pourquoi tu veux le sauver ? Enfin, t'as presque l'impression de vouloir sauver ton personnage. Genre, il est méchant, mais un peu comme les vilains en fait dans les fictions qu'on aime un petit peu quand même, même s'ils sont ultra vilains. Voilà. Sauf que faire ça pour une vraie personne qui a commis des choses atroces, d'un point de vue moral, je me suis dit c'est un peu bizarre. Donc je pense que pour toutes ces raisons, je ne pourrais pas faire ce travail sur une autre personnalité.
Moi, je voulais préciser juste, Karine, Hitler, c'est pas pour qu'on l'aime bien, hein, le livre. C'est pas pour le sauver, quoi.
Je pensais à Poutine. pas à Hitler.
On découvre des choses, vraiment. C'est pas filmé, Fabrice, ça va ? Ah si, c'est filmé. Bon. Est-ce que, pour vous, quand vous écrivez un roman biographique, qu'est-ce qui est pour vous le plus important ? Est-ce que c'est de vous, la base de votre truc, c'est de vous sentir juste par rapport au personnage dont vous écrivez l'histoire, ou c'est ou c'est autre chose ? Ah, question difficile.
Je pense que c'est vraiment cette justesse vis-à-vis du personnage, et autant. Que ce soit une personne sur laquelle il y a déjà beaucoup de biographies ou aucune, comme le cas de Toni Morrison, je pense qu'il y a cette volonté de bien faire et aussi de respecter la personne dans son intimité et en même temps accepter qu'on n'aura jamais la vérité, cette espèce d'angle. Donc trouver cet équilibre-là, pour moi, ce serait ça.
Oui, moi, c'est l'authenticité. Par rapport à ce que je disais au début, c'est-à-dire que c'est obsessif pour moi, c'est obsessionnel de ne pas... trahir le personnage, trahir les faits, l'histoire et le langage même, les expressions qu'il pourrait utiliser. C'est-à-dire que je détesterais que la personne ou quelqu'un de son entourage lise le livre en disant « mais il n'aurait jamais dit ça comme ça, c'est ridicule, c'est pas lui ». Alors bon, en plus nous on écrit en français, là on parle que de personnalité américaine d'ailleurs. Donc forcément il y a un biais, de toute façon il y a un biais de langage, donc de tournure d'esprit. Mais avec ça en compte, c'est mon obsession, c'est que tout soit juste. Et si je déborde, ce qui est très rare, d'une anecdote... ou si j'en invente une, il faut vraiment qu'elle soit probable et que personne au monde ne puisse venir me dire « non, ça, c'est pas possible ». Voilà, donc c'est un challenge. C'est vraiment, si j'invente, il faut qu'il n'y ait aucun témoin vivant pour venir me contredire.
Oui, du coup, c'est-à-dire chez toi, il y a ce besoin d'authenticité, de justesse. Parce que la justesse, c'est quelque chose qu'on peut ressentir soi-même en tant qu'auteur. Et on peut se sentir juste, même si le langage n'est pas forcément le même. C'est intime. Du coup, toi, ton sentiment de dire « je suis juste » par rapport au personnage passe vraiment par un langage aussi. Et pas seulement par les faits les faits sont réels, etc. Mais comme dans un biopic cinématographique, où on peut tout à fait s'autoriser, il ne parle pas exactement de la même façon, parce que nous, on a envie de toucher un public avec lequel ça marchera. Mais par exemple, les faits sont totalement vrais. Toi, c'est indissociable du langage. En fait.
Oui, enfin, en l'occurrence, pour Luther King et Malcolm X, parce que comme ce sont des personnalités qui ont passé leur vie à parler, à faire des discours, leur langage et leur image, en fait. Tout passe par leur façon de parler. C'est un peu différent, peut-être, pour Toni Morrison qui écrit et pour Marilyn Monroe qui apparaît. Mais là, pour des tribuns, je ne peux pas trahir la façon de parler.
Il y avait la même chose pour Toni Morrison. Et justement, je trouve que tu donnes un bon exemple parce que le langage aussi raconte une histoire. Toni Morrison a expliqué que si on arrive... Elle venait de la campagne, donc même sa manière de parler, lorsqu'elle arrive dans une université extrêmement cotée, il y avait des cours de langage soutenus. Et donc même la manière de parler en tant que professeur, comme Jennifer, j'étais très attachée à cette question de la voix parce que la manière dont elle parle dans les premières interviews... et puis celle après le prix Nobel, et puis celle à la fin de sa vie, où en fait elle revient presque à la manière dont elle... dans un langage familier, parce qu'on sent qu'elle est à l'aise, qu'elle sait qu'elle n'a plus rien à prouver. Je trouve que le langage raconte aussi complètement une histoire, je trouve aussi.
Ouais. Je reviens à ce que je disais sur Simone Veil au commencement. Moi, je vous rejoins sur le besoin d'exactitude, de la vérité du personnage. Alors, il y a toute une part qui est complètement subjective, qui est voilà, comment définir une personne, une personnalité, ça c'est impossible. Mais les faits, c'est important de coller au maximum aux faits, de les respecter. Et quand on se lance dans un travail de recherche, on s'aperçoit des fois, il y a des zones d'ombre, on s'aperçoit très vite que ça m'est arrivé sur d'autres projets romanesques, notamment sur Kafka, où tout d'un coup, on fait partie des 10 personnes au monde qui s'intéressent à un tout petit détail, et que finalement, ce détail a été balayé ou traité avec des involtures par des journalistes ou des biographes, et on peut être obsédé par ça. Et sur Simone Veil, quand j'étais sur le point de terminer le livre, je reçois un mail de son fils qui avait su que j'écrivais sur sa mère, qui était morte vraiment quelques mois auparavant. Et il l'avait su parce que j'avais contacté une des petites filles, etc. Bon, bref, il le savait et il n'était pas content. Il n'était pas content parce que je ne l'avais pas contacté. Et vraiment, il m'envoyait une espèce de mail plein de, pas de colère, mais enfin vraiment d'irritation, avec en plus sa posture d'avocat assez puissant, genre je vous briserai, machin, ça. Bon. Enfin, il y avait cette peur que je comprenais pas. Il disait ouais, vous allez raconter n'importe quoi, etc. Il avait absolument rien lu du tout. Et bon, j'ai pris un peu le mail en pleine face, et puis je lui ai fait une longue réponse le lendemain, en lui citant toutes mes sources, et notamment des livres qui font autorité vraiment aujourd'hui sur les camps d'extermination, parce que c'était ça son problème, évidemment. Et par ailleurs, je lui dis, vous savez, j'ai plus grand respect pour votre maman, mais dans son autobiographie, elle cite une femme capot qui lui aurait sauvé la vie et qui, selon ses écrits à elle, aurait été fusillée en 1945. Bah, j'ai le regret de vous dire que c'est faux. Cette femme, elle n'a pas été fusillée en 1945. 6 juin, le certificat qui le prouve, etc. Elle était encore vivante en 1950. Elle devait être fusillée, elle ne l'a pas été. En lui disant ça, je lui disais, vous savez, monsieur, j'ai travaillé, vraiment. Et il a répondu à ma réponse. Et ça avait totalement... C'était complètement apaisé. D'un coup, il s'est dit, tiens, OK, le garçon est sérieux, en fait. Il a dû se dire, il écrit pour la jeunesse, donc ça va être n'importe quoi. Mais, voilà. Mais par la suite, j'ai aussi compris que Simone Veil, elle était attaquée par des révisionnistes, mais complètement frappadingues, qui faisaient des blogs de 30 pages pour expliquer que, quand même, la vie, ça allait à Auschwitz et qu'elle avait vachement exagéré, Simone Veil, et que probablement elle avait couché avec la capot en question, et qu'en plus il faisait toujours beau et que tout allait bien et que le Zyklon B, ça n'existait pas. Enfin, et vraiment 30 pages là-dessus. Donc la famille Veil, elle est gardienne du temple, mais aussi soumise à ce genre d'attaque contre la mémoire de la mère à l'endroit le plus fragile et le plus sensible. Et il y avait une peur que j'ai compris rétrospectivement, qui était vraiment légitime, de se dire, le mec arrive, il va parler des camps d'extermination, qu'est-ce qu'il y connaît? De fait, évidemment, j'ai jamais mis les pieds. Mais en revanche, tout ce passage sur le séjour de Simone Veil en camp, qui est affreusement délicat, évidemment, à écrire, je suis allé avec des méga pincettes, et d'ailleurs, c'est une partie à part dans le livre qui est séparée du reste par deux pages noires, et où la narration n'est pas la même que dans le reste du livre. Évidemment, j'étais dans mes petits souliers et je pesais chaque mot en me disant il ne faut surtout pas qu'il y ait un poil qui dépasse et que je puisse être repris sur rien du tout, sur cette réalité qui est par essence indicible, mais qui malgré tout se paye de faits et de choses qui sont clairement établies et irréfutables. Quoi.
Donc pour toi, il y a cette idée de bah, finalement tu trouves ta légitimité dans la recherche, quoi, dans la densité des recherches, dans le fait d'être sûr de passer à côté de rien et de faire les bons choix. C'est là où tu trouves le plus ta légitimité.
À partir du moment dans ce genre de cas où on se conforme au fait et que personne pourra nous contredire, dire ça s'est pas passé comme ça, le reste, j'allais dire, n'est que littérature. Et de toute façon, on va donner l'image d'une personne qu'elle pourra réfuter si elle est encore vivante ou que les gens qui l'ont connue peuvent réfuter, mais ils auront de toute façon pas d'argument, ce sera leur perception contre la mienne ou celle d'autres personnes, puisque dans le cas de Marilyn Monroe, par exemple, on voit que suivant les gens à qui on s'adresse, c'est pas du tout la même perception de la personne, c'est toujours la même personne, mais une personne, elle existe dans le regard des autres, et donc dans le regard des gens qui l'ont côtoyée, mais aussi dans le regard de la personne qui va écrire sur elle.
Oui, donc c'est assumer que nos romans sont une interprétation subjective de plus romanesque de la vie d'une personne, et puis on a tous effectivement, vous voyez, nos critères différents un peu de là où on se sentira le plus juste, voilà. À part cette idée qu'on a tous de faire des recherches très longue, très poussée, ne rien laisser au hasard à ce niveau-là. Après, sur le langage, etc., ça peut effectivement dépendre d'une personne à l'autre. Alors, comme le temps file, j'ai quand même deux dernières questions. Après, je peux passer le micro si vous avez, vous aussi, des questions à poser aux auteurs et aux autrices. J'aimerais savoir, la façon dont vous parlez de vos romans, tout ce que vous avez dit de ces personnages, écrire un roman biographique, c'est d'une certaine manière rencontrer aussi quelqu'un, comme on l'a dit, quand même le rencontrer de manière assez intime. On passe du temps avec cette personne, peut-être un an, deux ans, en fonction du temps de recherche et d'écriture après. Est-ce que le fait d'écrire un roman biographique sur quelqu'un a pu vous bousculer ou vous questionner, vous, personnellement ? Et est-ce que le fait d'écrire du roman biographique, c'est-à-dire de mettre son art de romancier au service du réel, a pu modifier votre manière d'écrire et votre rapport au roman ? Notamment, Laura, je pense à ça, toi, par rapport au fait que tu écris sur une écrivaine. Donc on est vraiment là dans le plus fort possible. Tu écris sur une écrivaine et tu es romancière, ce qui, moi, par exemple, m'apparaîtrait quelque chose de très compliqué. Parce que forcément, en écrivant sur Toni Morrison, tu as... outre le fait de lire tous ses romans, tu as dû lire toute sa manière de parler de ses romans, de son écriture, tout ce qu'on a pu dire, toutes les critiques qu'on a pu faire, positives, etc. Mais sur son écriture, dans quelle mesure tu as le sentiment que ça peut avoir un impact sur ton propre style aujourd'hui ? Est-ce que ça a un impact sur ton rapport à ton art de romancière ?
Alors oui, c'est une large question parce que je pense qu'elle a traversé vraiment toute l'écriture de ce manuscrit. Déjà, je pense que j'étais très au clair avec moi-même sur le fait que je n'essaie pas d'écrire comme Toni Morrison. J'essaie vraiment de donner une voix pour raconter sa vie, ce qui est deux choses différentes, très dur, mais ce qui est deux choses différentes et c'est une vérité. Je ne suis pas Toni Morrison, je n'essaie pas de rendre sa manière d'écrire, j'essaie de raconter la manière dont elle a trouvé la sienne. Et ça, c'est très différent. Et donc, la manière de, non seulement de montrer aussi comme son rapport aux mots m'a beaucoup aussi questionnée. C'est-à-dire que quand elle raconte que sa sœur et elle avaient l'habitude de lire des mots très petites et de les écrire après à la craie sur le trottoir devant chez elle, et qu'un jour elles écrivent « fuck » comme ça, Et leur mère hurle et débarque en disant « Mais qu'est-ce que vous écrivez ?» Et elles ne savaient même pas ce qu'elles étaient. Elles ont juste recopié. Toni Morrison explique « Mais c'est là où j'ai compris que les mots avaient un pouvoir, en fait. Que ça pouvait changer le comportement de quelqu'un, ça pouvait avoir un impact sur quelqu'un. » Donc c'est plus ça qui m'a inspirée sur à quel moment de notre vie fait que on forge notre écriture. Et c'est dans des tout petits épisodes comme ça. Donc en fait, il y a quelque chose finalement de très familier et même qui pousse un peu à l'introspection, je pense, après, de se dire elle a vécu ça comme ça. Et après, par rapport à mon écriture aujourd'hui, je pense le fait de voir que Toni Morrison, dans un contexte où il y avait très peu, très 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 peu d'autrices noires publiées à l'époque, très peu d'autrices noires qu'elle a lues, dans, même dans sa bibliothèque, etc. Et pourtant, elle était capable de se dire, je sais que j'écris bien. Je trouvais ça incroyable. J'aurais voulu avoir cette assurance-là très jeune. Je pense qu'on est beaucoup de ma génération aussi à avoir cherché une légitimité. Elle a créé sa légitimité avant même d'écrire ou d'être publiée ou d'avoir un contrat d'édition, etc., etc. Et ça, j'en suis ressortie de ce livre avec ça. De dire, mais en fait, même quand elle reçoit pour l'œil le plus bleu ce retour d'un éditeur qui dit « Votre roman n'a ni milieu, ni début, ni fin », elle dit, alors ça fait mal, hein, sur le coup, elle le dit, mais elle se dit qu'en fait, il n'y aura jamais plus sévère qu'elle-même dans ce contexte-là, surtout dans un contexte où on ne donne pas la place aux autrices noires. Donc, et elle avait toujours ce rapport de « je veux me dépasser moi-même, face à moi-même dans le prochain livre ». Et ça m'a beaucoup... maintenant, quand j'écris, je pense à ça. Et après, il y a bien sûr le retour de l'éditeur qui va te dire... mais Laura contre Laura, qu'est-ce que ça donne par rapport au livre suivant? Je ressors vraiment avec ça.
Bah c'est super, génial. Merci Tony alors.
Merci Tony.
Tu parlais de la rencontre et le temps qu'on passe avec une personnalité. Et comme dans la vraie vie, en fait, on ne découvre pas que des belles choses. Et je rebondis juste là-dessus, parce que ta question était en deux temps. Et c'est aussi une interrogation qu'on a avec son éditeur, son éditrice. Par exemple, Martin Luther King, on s'est demandé aussi... Quelle place on laisse à sa déviance, sa supposée, je mets entre guillemets, parce que je ne suis pas sûre, sa supposée déviance sexuelle, par exemple, son comportement avec les femmes, son comportement avec sa propre femme, quelle place on laisse à Coretta King? Ça a été une grande interrogation, et on a décidé qu'on ne pouvait pas ternir, on n'était personne pour ternir une personnalité qui, de toute façon, a énormément fait avancer les choses sur d'autres plans. Et par ailleurs, on ne sait pas ce qui s'est passé entre Martin Luther King et les femmes, puisque le FBI est en partie responsable de certaines révélations. On sait très bien que le FBI est certainement derrière la mort de Martin Luther King, donc ce ne sont pas des personnes qui ont intérêt à ce que la vérité soit révélée telle qu'elle. Donc on ne sait pas, on a laissé ça... en tout cas, on n'a pas voulu l'occulter. J'ai voulu en parler, mais je n'ai pas voulu que ce soit au cœur du roman. On découvre des choses comme ça, qui ne sont pas forcément agréables, mais qui ne remettent pas en cause l'autre partie de la vie des personnalités. Et à l'inverse, Malcolm X, je n'ai pas voulu révéler ouvertement comme ça, dire Malcolm X était homosexuel, parce que ça n'est pas officiellement admis. Certaines sources le disent, mais pas toutes. Certaines personnes dans son entourage ne veulent pas admettre ça. Donc pareil, j'essaie aussi de me coller au discours, à ce qui est vraisemblable, ce qui est vraisemblant dans la personnalité. Et ce que ça change dans l'écriture, alors moi j'ai eu des moments très difficiles sur ce texte, mais j'ai l'habitude d'écrire sur des gens qui sont morts de morts violentes, j'aime bien écrire sur des gens qui ont été assassinés, jeunes, pour leurs idées ou leurs actions, et là on est en plein dedans, donc, comme je vous disais, il est mort à 39 ans, comme Malcolm X. Et quand on sait ça, évidemment, on commence à écrire. Et j'ai regardé beaucoup d'images. J'ai regardé en particulier un documentaire sur la dernière campagne de Martin Luther King qui s'appelait « La campagne pour les pauvres » où il avait décidé d'élargir son discours à toute la population américaine qui souffre, c'est-à-dire pas seulement les Noirs, mais tous ceux qui souffrent, quelle que soit la couleur, quel que soit l'état dans lequel ils vivent, au nord, au sud. Et là, tout d'un coup, on n'a plus... 8 millions de personnes, on a 200 millions de personnes potentiellement qui peuvent le suivre. Donc là, il devient vraiment un grand danger. Et c'est pareil pour Malcolm X, à la fin de sa vie, il ne s'adressait pas uniquement aux Noirs musulmans, il ne voulait plus créer un État séparatiste noir, il s'est dit « Ah, l'islam, c'est pas ça en fait, c'est universaliste l'islam. » Donc aussi, nous aussi, on va s'adresser à tous les Américains, voire au monde entier, parce qu'en fait, c'est du panafricanisme, c'est de l'universalisme, on s'adresse à tout le monde. Donc là, potentiellement, on a même... 4 milliards d'êtres humains qui vont suivre ces gens-là. Et en fait, donc, dans les documentaires, dans ce dernier reportage qui suit Martin Luther King dans le dernier mois, moi je sais à quelle date il va mourir. C'est horrible de le suivre et de voir qu'il le sait aussi. Ils le savaient tous les deux. Ils sentaient la mort, mais vraiment, jour après jour, ils sentaient la mort les guetter. Ils ne dormaient plus. Ils étaient bourrés de médicaments tellement ils stressaient. Et là, il y a un stress qui monte. C'est vraiment une oppression qui me saisissait en me disant « Mais moi, je suis qui là? Je suis derrière mon ordinateur, je suis en train d'écrire confortablement. J'ai une vie que j'adore et je suis en train d'écrire sur des personnalités là dont je suis la mort, mais jour après jour. Et ça me bouleverse. Il y a tout d'un coup, j'ai une empathie énorme pour ces personnes. Et quand je termine le roman, mais je suis au bord des larmes généralement. Et c'est pour ça que je commence par la mort de Martin Luther King, parce que ça me... Ok, allez, c'est fait, on revient en arrière, et puis après on y retourne. Mais ça me replace dans une position d'humilité, moi, en tant qu'écrivaine occidentale, dans une époque et un lieu, en me disant, mais quelle chance j'ai de vivre cette vie et de pouvoir juste être un tout petit témoin de ça. Et donc, la moindre des choses, c'est de tout donner dans les recherches et dans l'implication pour rendre hommage à ces personnes.
Oui, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, quand on crée un personnage ou des personnages, on a l'habitude de dire c'est un peu la tarte à la crème. L'écrivain, il vit avec ses personnages. Souvent, voilà, ils peuvent le hanter. Là, c'est quasiment au sens propre. C'est-à-dire qu'on est pratiquement en présence d'un fantôme qui peut même être encore vivant, mais en tout cas, il y a quelqu'un sur notre épaule hein, qui regarde et quelqu'un avec qui on vit et dans l'intimité duquel on essaye d'entrer, et c'est une expérience assez troublante. Moi, sur les trois livres que j'ai écrits, c'est marrant parce que Simone Veil et les Obama, j'ai plutôt ressenti, malgré les épisodes très douloureux de la vie de Simone Veil, plutôt ressenti une espèce de joie et de quelque chose qui allait vers la lumière, vers l'action, puisque voilà, c'est les gens qui sont devenus ce qu'ils sont. La vie de Marilyn était beaucoup moins drôle, hein, enfin beaucoup plus tragique, même quand elle a été une star, et pour plein de raisons, mais son enfance était vraiment un moment de grande tristesse, et je vivais aussi avec cette tristesse. De façon générale, quand on écrit, et notamment pour les adolescents, voire pour les enfants, on est amené à créer des personnages. Et souvent, on peut le faire de façon d'autant plus caricaturale, un peu à la serpe, qu'on s'aperçoit qu'un certain nombre de lecteurs aiment bien ça, aiment bien savoir tout de suite à qui ils ont affaire. Est-ce que lui, il est gentil? Est-ce qu'il est méchant? Est-ce qu'on peut définir un trait de caractère avec deux, trois adjectifs? Quand on crée, par exemple, des grandes sagas et qu'il y a une multitude de personnages, on est obligé de leur donner une coloration forte pour que les lecteurs reconnaissent tout de suite. Et comme je disais tout à l'heure, les personnages, il leur arrive beaucoup plus de choses que dans la moyenne. Ils sont beaucoup plus caricaturaux aussi que dans la vraie vie en général. Là, quand on vient vers la biographie, ben on se reconnecte avec cette réalité que personne n'est comme ça. Les gens sont extrêmement complexes. Si moi je devais me définir ou définir chacun d'entre vous en même 3, 4, 5 adjectifs, je serais très embêté. Quand ça, à quel moment de ta vie, est-ce que c'est pas quelque chose qui change? Est-ce que c'est quelque chose qu'on est capable de définir? Est-ce que ça dépend de la perception? Est-ce que ça dépend de ton environnement, de à quel moment de ton existence tu es, dans quel élan, etc. Donc c'est quasiment impossible. Et même quand on ne s'intéresse qu'à l'enfance ou à la jeunesse des personnages, ben on s'aperçoit qu'ils sont d'une complexité ineffable. Et on est obligé, nous, de les ramener un petit peu dans quelque chose de tangible aussi pour le lecteur, tout en respectant cette complexité inhérente à chacun. Et je trouve ça intéressant quand vous dites tous les deux que vos personnages ne sont pas toujours aimables ou qu'on découvre des trucs sur eux. Bah oui, comme nous tous. Il y a ce qu'on veut donner comme image et puis il y a ce qu'on est vraiment, il y a nos failles, nos errements, nos manquements, etc. Et rentrer dans l'intimité de ces personnages-là, c'est effectivement une grande chance. C'est une expérience quasiment sensorielle pour l'écrivain, qui a même rien à voir. Est-ce que le livre va devenir par la suite le fait qu'il sera lu par des lecteurs, mais simplement la proximité avec ces personnages-là. Il y a les personnages sur lesquels on écrit. Moi, je connais mieux Simone Veil que mon oncle que j'ai peu connu. Voilà, parce que je l'ai peut-être vu quelques fois, j'ai discuté un petit peu avec lui. J'ai pas assez parlé de son passé, de qui il était, de ce qu'il croyait, etc. Simone Veil, elle m'a pas répondu, mais moi, je l'ai beaucoup questionnée et j'ai beaucoup reçu d'elle par rapport à ce que les sources me disaient d'elle et ce qu'elle-même disait d'elle aussi dans ses livres.
Effectivement, du coup, c'est vrai qu'après un. après avoir écrit un roman biographique, on a quand même le sentiment de connaître intimement nos personnages et quand même globalement, si on a bien bossé dans leur complexité et dans la complexité aussi de leur environnement social, politique et évidemment. Et effectivement, notre espoir en tant qu'écrivain, écrivaine, c'est que les gens qui vont nous lire vont avoir aussi cette intimité, vont aussi rencontrer le personnage grâce à l'incarnation romanesque, grâce justement à ce choix de la fiction que l'on a fait. Et notamment, donc, pour finir, parce que c'est des romans, donc vous avez compris, qui sont d'une grande exigence et qui se lisent à partir de 13-14 ans et qui n'y a pas d'âge limite pour les lire. C'est vraiment le propre d'une certaine littérature adolescente exigeante, mais aussi particulièrement en plus de cette collection. Et donc l'intérêt après aussi, c'est justement parce que si on écrit pour les adolescents, c'est aussi pour nous un enjeu, une forme d'engagement aussi, un choix. On a un vrai goût et un vrai amour pour nos lecteurs et nos lectrices adolescentes que nous, on a, pour lesquelles on choisit d'écrire. Et puis on peut aussi écrire comme vous deux, d'ailleurs, vous le faites pour les adultes et pour les ados. Et ce que je trouve intéressant, après, c'est d'aller rencontrer les adolescents avec ces propositions de romans biographiques et de voir quel débat ça va engendrer, quel questionnement ça va engendrer chez eux, aussi en tant qu'adolescents, justement. Et de voir à quel point ils sont attachés à ces modèles, à ces figures, à ces gens qui ont vraiment existé, en quoi ça compte plus pour eux, d'une certaine manière. Ça peut être encore plus facile de se projeter, tiens, elle a existé, donc c'est possible pour moi. Toi, par rapport à ce que tu disais sur Toni Morrison, des enfants qui peuvent, des ados qui peuvent avoir envie de lire, elle y a cru, ben moi, ok, on va me dire que j'écris mal, mais je vais y croire quand même. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer des adolescents et de voir quelles questions revenaient souvent et quelles questions les interpellaient le plus par rapport à du roman biographique en particulier? Moi, j'en ai rencontré, pour le coup, je peux le dire, mais est-ce que vous avez aussi des anecdotes de ça? Et puis on finira là-dessus parce que le temps file, qu'on a encore un autre débat puis une lecture théâtrale, donc que vous ayez le temps de prendre des petits cafés et des petites viennoiseries entre les rencontres. Mais est-ce que vous avez des anecdotes sur cette rencontre aussi avec les adolescents, avec ces textes particuliers?
Moi, ce serait la première fois demain, donc je vous dirai.
Donc il faut venir la voir samedi et dimanche, comme ça elle vous racontera.
Non, mais moi je trouve que ça les percute à un endroit, souvent les adolescents, il y a une espèce de c'est même pas une naïveté, mais ils n'ont pas vraiment réfléchi à la question que les gens ne naissent pas célèbres, quoi. Et c'est le grand intérêt de cette collection, c'est de dire, voilà, et comme ça a été dit aussi, il y a un destin, il y a une volonté, il y a des qualités particulières, mais en fait c'est aussi énormément, comme le soulignait Karine, des affaires de rencontres, de mains tendues, d'événements fondateurs ou destructeurs qui font que tout d'un coup quelque chose va éclore. Il y a une grande part de hasard. Et à un moment où ils sont quand même pas mal obsédés par cette histoire de notoriété, qui va même maintenant se comptabiliser sur les réseaux sociaux en nombre de likes, etc. Bon. On leur explique par ces livres que ça se passe pas comme ça, ou ça peut se passer comme ça brièvement, mais c'est un destin, encore une fois, c'est quelque chose qui se construit et qui est une rencontre entre soi et le monde extérieur. Donc moi je suis souvent frappé par la candeur qu'ils peuvent avoir par rapport à ça, comme si les gens avaient décidé, quoi, d'être célèbres, entre guillemets, ou d'être connus. Et on a des questions un peu philosophiques sur, d'abord, qu'est-ce que c'est être connu ou être célèbre? Parce que finalement, connu de qui? Et souvent, on parle de personnages dont, des fois, ils n'ont jamais entendu parler. Hein. Même Marilyn Monroe, vous parlez aujourd'hui à quelqu'un qui a 14-15 ans, c'est pas dit qu'ils connaissent. Et puis, est-ce que c'est une bonne chose aussi? Puisque pour eux, il y a cette question qui est aujourd'hui la valorisation de la notoriété, mais on le voit bien avec des influenceurs qui suicident en masse, etc. C'est pas très cool d'être connu. Plus les gens vous connaissent, plus vous avez des possibilités que les gens vous détestent. Et on le voit avec moi, tous les personnages dont j'ai parlé, mais notamment quand vous êtes une personnalité politique. Donc il y a aussi cette démythification de la notoriété en disant c'est surtout un fardeau, quelque chose dont on peut se servir pour faire passer les messages, mais forcément il y a le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est que des gens non seulement vous détestent, mais parfois même veulent votre mort et l'ont.
Moi je l'ai assez peu fait, donc peut-être Carole, si tu veux toi répondre par rapport à tes rencontres.
Oui, puis de toute façon il faut qu'on arrête. Non, mais moi c'est Il est 10h30. Moi, ils m'ont souvent questionné, étonnamment, c'est une des questions qui est revenue le plus souvent, c'est sur qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans le roman. C'est vraiment une question extrêmement intéressante en plus, où vraiment c'est mais qu'est-ce que vous imaginez, mais qu'est-ce que vous inventez, voilà, ça ils ont vraiment besoin de savoir, et du coup je trouve ça très intéressant parce que finalement ça les confronte à ce que c'est que le roman, ça les confronte vraiment au genre romanesque, à la vérité romanesque, et ça induit avec eux, au-delà de la réalité de la personne, etc., une discussion sur la vérité romanesque, qu'est-ce que c'est, et sur la liberté du romancier. Et donc je trouve ça, moi c'est ce qui m'a le plus plu et le plus interpellée, c'est ça, parce que c'est la question qui revient à chaque fois. Mais cette scène, vous l'avez imaginée, mais ça, et voilà, et là se trouve quelque chose que je trouve hyper fort, de pouvoir, à travers du roman biographique, parler de ce que c'est finalement que inventer, que imaginer, que la liberté, que la vérité dans un roman. Voilà. Bon, sur ces belles paroles, je vous remercie énormément. Nous vous remercions tous et toutes. Merci. Voilà. Un grand merci aussi tous les quatre. C'était passionnant. Je suis ravie, vraiment. Merci beaucoup. C'était au-delà de mes espérances. Après les déclarations éditoriales et autres. Et puis bah écoutez, petit café, on repart après sur vraiment le cœur de la littérature ado avec trois super autrices, et on finira avec une lecture théâtrale d'une nouvelle biographique écrite par Joe Wittek. Voilà. À tout de suite.